De missiles et près de 300 drones russes se sont abattus hier encore sur l'Ukraine. Des quartiers d'habitation, mais aussi des installations énergétiques ont été touchés. En plein hiver, des Ukrainiens se retrouvent sans chauffage, épuisés par une guerre qui n'en finit pas. Le 24 février 2022, Vladimir Poutine lance ses troupes à l'assaut de l'Ukraine, direction Kiev, la capitale.
J'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale. Ainsi, nous œuvrerons à la démilitarisation et à la dénazification de l'Ukraine.
Mais les chars du Kremlin n'atteindront jamais Kiev. Les Ukrainiens résistent. Au fil des semaines, les forces russes sont contraintes de reculer, laissant derrière elles des centaines de cadavres à Boutcha, ville martyre.
Nous savons que des milliers de personnes ont été tuées, torturées, mutilées. Des femmes ont été violées et des enfants assassinés.
Le conflit qui entrera demain dans sa cinquième année aurait fait jusqu'à 140 000 morts côté ukrainien, 325 000 côté russe. Les combats se concentrent dans l'Est. Moscou y occupe 20% de l'Ukraine, mais Kiev et son armée assurent ces derniers jours regagner du terrain.
Nombreux sont les soldats comme moi qui refusent de céder notre territoire. Accepter les conditions de la Russie, ce serait un échec.
Dans les rues de Moscou, des Russes espèrent un accord de paix sans l'ombre d'une critique du Kremlin.
J'ai de la famille en Ukraine. Nous espérons tous que le bon sens prévaudra, surtout à Kiev, parce que notre président est un homme formidable, très raisonnable.
Alors, à quand la fin de la guerre? Quelles séquelles laissera-t-elle sur les sociétés de deux pays qui faisaient partie autrefois d'une même patrie, l'URSS?
D'un côté, il y avait une crainte, évidemment, que la Russie attaque, et de l'autre, il y avait quand même l'espoir de se dire « mais ça serait un acte de folie de s'attaquer à un pays si grand ». Et on pensait plus que c'était le Donbass, la côte de la mer d'Azov, qui allait être attaqué pour la Russie désenclaver les territoires occupés de la Crimée.
D'accord. On se préparait, les gens faisaient des exercices, préparaient leur kit de survie, etc. Mais c'est quand même l'incrédulité qui
vous étiez sur place à l'époque?
Non, je n'étais pas sur place. Mais,
vous avez de la famille, vous avez des amis en Ukraine.
Et surtout, il y a quelques jours, il y a une sorte de pas flash mob, mais en tout cas, les gens ont dit « qu'est-ce que tu faisais ?» le 24 février 2022, et tout le monde se souvient, tout Ukrainien peut dire précisément ce qu'il faisait, où il était et quels étaient ses sentiments.
Rien, on a tout de suite des références qui apparaissent comme ça. Donc avec mes étudiants de l'Université de Lille, on avait discuté depuis 2014, depuis l'annexion de la Crimée, du scénario de l'invasion de l'Ukraine. Et donc, est-ce que Poutine va continuer? Est-ce que pour Poutine, il s'agit de reconstruire l'Empire soviétique? Est-ce que c'est simplement une opération locale? Alors moi, j'ai toujours été partisan de l'idée que c'est évidemment chez lui une obsession qui est de marquer l'histoire. Il y a plein d'autres facteurs qu'on pourra invoquer, on pourra les évoquer, mais c'est cette idée qu'il a un rôle à jouer. C'est quelqu'un de très superstitieux, il faut bien comprendre. Et donc, le fait de rester aussi longtemps au pouvoir...
Mais là, il n'y parvient pas. La guerre dure depuis 4 ans.
Et oui,
ça, c'était imaginable.
Et oui, mais dans sa tête, c'est ça qu'il faut imaginer. C'est quelqu'un qui est à la fois fin d'esprit et totalement dément. C'est quelqu'un qui s'imagine être dans une perspective, j'ai envie de dire, cosmique, historique, grande historique russe. Il se voit comme personnage... essentiel de l'histoire, de la longue histoire russe et rassembleur des terres, etc. etc.
Étonnant, c'est que moi j'ai tout à l'heure, en fait ça rejoint, là j'ai appelé un ami tout à l'heure qui vit à Kiev et qui me racontait exactement ce que raconte cette dame. Il me raconte que eux, ils voient des projets à la semaine, mais ils ne peuvent pas aller plus loin. Et ce qui est vrai, c'est étonnant, c'est que les restaurants continuent à fonctionner, il y a une vie nocturne, avant le couvre-feu, et il y a en ce moment, c'est quand même très dur avec le...
Qu'est-ce qui a changé depuis 4 ans? Vous y allez régulièrement, 3 à 4 mois par an. Qu'est-ce qui a changé entre 2022, 23, 24 et maintenant 2026?
C'est qu'en 2022, par exemple, après que les territoires soient en partie libérés...
Et après que l'armée russe ait reculé, quasiment jusqu'au faubourg de Kiev. Hein.
Exactement. À Kiev, par exemple, il y avait un sentiment de légèreté et d'optimisme. Et vous savez, alors tout à l'heure vous citiez ce que je racontais sur l'humour, mais on connaît bien l'humour ukrainien, on connaît bien l'humour du président Zelensky, et c'est vrai qu'il y a un vrai fort humour. Et aujourd'hui, j'en parlais encore à un ami qui me racontait, en fait, on rit moins, on fait moins de blagues, alors qu'il y a toujours ce petit humour, même dans les moments les plus durs. Donc ça, c'est en train de disparaître.
Irina, dans la tête, dans le guidon, a résisté, à ne rien lâcher, et la vie, effectivement, est devenue presque plus simple, dans le sens où on va à l'essentiel. On se débarrasse de superflu, tout simplement, parce que, comme on a dit...
Vous êtes retournée en Ukraine, hein, depuis...
Oui, je suis retournée plusieurs fois, mais aujourd'hui, on a l'impression que les gens savent ce qui est important, ce qui est secondaire, ce qui peut être mis de côté, et en revanche, c'est le contact humain, aller voir ses amis, passer du temps avec ses enfants. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, puisque la guerre dure, ça ne va pas s'arrêter demain, donc on ne peut pas laisser Poutine nous prendre aussi notre temps.
Et sur le plan...
Pas pendant plusieurs heures d'électricité ou quand les coupures deviennent très très régulières, le peu de temps où vous retrouvez l'électricité, bah, vous le passez à, je ne sais pas, à lancer la lessive, à charger tous vos téléphones et tous vos powerbanks, etc. Donc on norme en fait et on rationne son temps et bien sûr ça complique la vie. En même temps, les restaurants sont ouverts, les magasins sont pleins. On est étonné de la façon dont les supermarchés sont remplis, même aujourd'hui.
Et puis cette...
Talankin, il a 34 ans, il est responsable vidéo dans une école de Karabakh. Karabakh est une ville industrielle à 1600 km à l'est de Moscou. Et donc Pavel filme tous les événements de l'école jusqu'au jour où Poutine déclare la guerre à l'Ukraine. Et là, son métier va vraiment changer du jour au lendemain. Il va désormais devoir mettre en boîte tout le nouveau programme scolaire qui a été imposé par le gouvernement, comme on va le voir avec ce professeur d'histoire géo qui évoque les sanctions économiques à l'encontre de la Russie.
Réalisé par ces sanctions, ce n'est pas la Russie, mais l'Europe. Elle se retrouve privée de ressources énergétiques. Les Français vont redevenir des mousquetaires qui se déplaceront à cheval. Ils n'ont pas d'agriculture, ils n'ont pas de blé, de gaz, rien.
Alors, les moyens mis en œuvre par la propagande russe, par les médias, sont considérables. Les moyens sont considérables. Et ça rappelle évidemment l'époque soviétique. Je pense qu'on a déjà atteint un seuil qui est sans précédent par son ampleur. Il y a, bien sûr, pour ces Russes-là, pour ceux qui souhaitent avoir des informations alternatives d'opposition, toujours le moyen de se procurer un VPN. Et encore aujourd'hui, c'est possible. Mais ça se réduit. Hein. L'appareil législatif croît pratiquement de semaine en semaine. Par exemple, une loi qui a été passée récemment prévoit qu'à partir du mois de mars, on pourra dénoncer tout ce qui nous apparaît comme une violation des valeurs traditionnelles russes à l'écran. Si on voit une série télévisée qui ne nous plaît pas pour tel ou tel épisode, surtout des épisodes homosexuels par exemple, des scènes, ou un film, voilà, on écrit une lettre, il y a un site qui est créé un peu à la manière de Pharos, hein, et une enquête sera diligentée aussitôt.
Évidemment, des classes de préparation à la défense, où on apprend aux enfants, enfin aux jeunes, à se protéger en cas d'alerte, à faire les premiers soins, et on les initie aussi au maniement des armes. Mais ça n'a strictement rien à voir.
L'information, quand même. En temps de guerre, même un régime démocratique peut tendre à contrôler l'information, y compris pour protéger ses positions.
Alors, moi, je peux juste vous parler de mon expérience en tant que photographe. On ne peut pas tout photographier, et on ne peut pas diffuser en temps réel les choses. On ne peut pas tout photographier, on ne peut pas photographier des points stratégiques, et sur certains territoires, on ne peut pas photographier par exemple deux bâtiments en même temps, parce que ça peut indiquer des positions militaires. Et donc on a une responsabilité en tant que photographe à ne pas mettre en danger les gens qui sont là-bas.
Présent, parce que s'il n'était pas présent, l'Ukraine se serait effondrée. Ce qu'on a sous-estimé, c'est l'organisation horizontale de l'Ukraine. On pensait qu'il suffisait juste de décapiter le chef et que tout allait s'effondrer. En fait, on a appliqué la grille de lecture de la Russie, en tout cas les Russes l'ont fait, à l'Ukraine. Et ça ne marche pas comme ça en Ukraine. En Ukraine, la société souffre effectivement, mais lorsque le président a voulu changer la réforme et fermer un centre qui travaille sur la corruption, les jeunes étaient dans la rue et ce projet de loi a été retiré. Donc les Ukrainiens sont forts et ont toujours été forts par cette organisation horizontale et ce sentiment que notre pays, notre vie dépend de nous. On n'attend pas que quelqu'un nous dise quoi que ce soit et ça marche aussi bien pour l'armée que pour la société civile. C'est cette organisation horizontale qui permet de tisser les liens de confiance. Bien sûr, on fait confiance à celui qu'on connaît, celui qui est déjà éprouvé, qui fait partie de votre milieu, mais on résiste parce qu'on sait aussi, et c'est ça peut-être la chose principale à savoir, c'est qu'on est conscient de ce que ça va devenir si l'Ukraine tombe. on est conscient ce que signifiera l'occupation russe. Donc c'est une question de survie et de combat existentiel.
André, téléspectateur, le livre que vous avez mentionné tout à l'heure, Les Exilés, revient sur ses origines. Je suis né à Moscou, j'ai grandi à Moscou, mes 10 premières années ont été passées à Moscou. Ma langue maternelle est effectivement le russe, mais il faut rappeler que mon père est juif ukrainien. Et c'est une famille de juifs assimilés, mes grands-parents maternels, hein, c'était des bons communistes qui étaient très utiles, etc. Mais j'ai quand même de plus en plus pris conscience de cette hybridité, si vous voulez, identitaire qui est la mienne. Voilà, c'est ce qui m'a permis de porter un regard un petit peu détaché, si vous voulez, de tout ça.
Ce que vous dites justement, c'est qu'on
a de maturité, mais je pense que le degré de maturité, il est présent hein, chez les Ukrainiens qui font le distinguo. Tout comme nous, en France, on fait le distinguo, évidemment. Quand on parle de Russie, qu'on nous demande « Est-ce que vous aimez la Russie, monsieur Kozovoy ?» Vous êtes tout le temps dans le négatif. Alors, je dis toujours « Mais quelle Russie ? De quoi vous parlez ? Vous parlez de Poutine ?» Évidemment que non. Il ne s'agit pas de Poutine, il ne s'agit pas de ce régime. On parle de la Russie, de ces fameux 20%, parce qu'on dit toujours qu'il y a 20% de ceux qui sont pro-Poutine, qui sont pour la guerre, etc. On n'a pas assez tué suffisamment d'Ukrainiens. 20% qui sont opposés et les 60% restants qui sont un petit peu indécis. C'est ceux dont il faut gagner, comme on dit, le cœur et l'esprit. Voilà, c'est le pourcentage. Donc, on distingue. Et donc, moi, je suis pour ces 20%, bien sûr, qui sont pour les Ukrainiens, qui sont opposés à cette guerre et qui sont aujourd'hui souvent exilés et qui, grâce à qui on a toutes ces informations en russe sur la réalité.
Vous parlez quelque chose à voir avec la langue russe. Et vu que c'est très compliqué parce que Poutine dit maintenant, là où il y a la langue russe, c'est la Russie. Même si Pushkin ou Dostoïevski n'ont rien à voir avec Poutine concrètement, mais ils ont à voir quelque chose avec l'Empire russe, avec toute cette politique coloniale et impérialiste de la Russie. Donc ce n'est pas le bon moment de l'amener en Ukraine.
Comprennent ici ce message qui était extrêmement émouvant et je trouve que Oksana a trouvé les mots justes et elle parlait avec son cœur. Je pense qu'aujourd'hui, tant que la guerre dure, il ne peut pas y avoir de questions d'amitié, de projection, etc. Tout dépendra de la façon dont cette guerre sera terminée.
Donc pas de culture russe.
Mais c'est tellement lié, la culture russe n'est pas neutre et la culture russe est avancer là où on ne pouvait pas avancer les chars. Et une fois que la culture était installée, une fois qu'on a en quelque sorte considéré que c'était intériorisé, on pouvait ramener la propagande. Donc la culture russe en France, c'est une culture de séduction. La culture russe en Ukraine, c'était une culture qui était censée combattre, supplanter et prendre la place de la culture ukrainienne. Et donc ça, il faut voir. Qu'est-ce que pour les Ukrainiens, la culture russe aujourd'hui, on ne peut pas comparer avec la situation française et européenne.
J'ai vu mes amis commencer à se mettre vraiment à parler ukrainien. Et il y a quelques années, quand j'étais arrivé en 2001 la première fois, la majorité des gens parlaient russe. Et maintenant, l'ukrainien est vraiment majoritaire. Et il y a un vrai rejet, en fait. Il y a des gens qui veulent. Il y a des couples qui étaient russes nativement et qui maintenant parlent entre eux en ukrainien. Il y a un exemple tout simple. Hein. En quelques années, il y a un nombre incalculable de librairies qui ont éclos à Kiev, avec vraiment la culture ukrainienne qui arrive. Mais c'est en 4 ans, 5 ans. Avant, il n'y avait pas vraiment, c'était des vieilles librairies un peu dépassées. Et aujourd'hui, on est vraiment dans quelque chose de moderne, tourné vers l'Europe et ukrainien.
C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui remonte à 2022, il faudrait monter à au moins 2014. Je vais juste citer un exemple, voilà, ce rejet du russe, et il faut qu'il introduise une toute petite nuance. Donc, je vais citer un exemple personnel. Je suis allé faire des recherches dans les archives de Kiev en 2015, je crois, en 2015. J'ai commencé à parler russe et tout de suite, on m'a fait comprendre que ce n'était pas la peine. Il fallait que je parle ukrainien. Mais dès que j'ai sorti mon passeport, et c'était un passeport français, là, il n'y avait aucun problème. Tout le monde me comprenait parfaitement. Voilà. Ce n'est pas contre la langue elle-même, c'est contre le locuteur, le porteur de langue. Si le porteur de langue est d'origine russe, citoyen de Russie, là il va avoir un problème. Mais si c'est juste un russophone, il n'y a pas de souci.
Un territoire de kilomètres carrés, c'est une question de l'avenir de l'Ukraine, de la façon dont elle pourra gérer son pays, son avenir, son destin européen.
Qu'est-ce que vous voulez dire par c'est pas une question de territoire, c'est-à-dire que l'Ukraine devrait se résoudre à abandonner une partie de son territoire si elle peut gérer de façon totalement indépendante son destin sur le reste.
Je ne dis pas ça. Le problème aujourd'hui, c'est dans quelle mesure ces garanties de sécurité ou cette entrée dans l'OTAN ou dans l'UE peuvent préserver l'identité ukrainienne et l'existence de l'Ukraine. Pour l'instant, tout ce que proposé à l'Ukraine, ce n'est pas des vraies solutions et ce que les Ukrainiens veulent éviter, c'est une solution bâclée qui ne servira que de prodrome pour d'autres agressions.
André.
Bah, j'avais pronostiqué à un moment une possible guerre européenne dès 2026. Hein. J'avais donné une interview où je disais, mais c'est pas du tout quelque chose de totalement absurde. Je l'avais fait sans avoir entendu le discours du chef d'état-major français qui parlait aussi de cette possibilité-là. Il faut qu'on s'y prépare. Hein, comme on dit en anglais, expect the best, prepare for the worst. Voilà, on a perdu de temps. On a sous-estimé le côté maléfique, presque j'ai envie de dire, c'est peut-être un terme mal à propos, mais enfin nuisible, et les intentions de Poutine. Hein, c'est quelqu'un qui va aller jusqu'au bout. Voilà. Donc la clé, si vous voulez, de tout ça, c'est quand même lui.
Guillaume Herbeau.
De filets anti-drones. Et quand on les voit, alors il y a un côté rassurant, on se dit on a moins de chances d'être attaqué par un drone, et en même temps on voit que la guerre commence à arriver dans des territoires. Et elle symbolise un monde dystopique. Pour moi, la guerre en Ukraine, elle amène les guerres de demain, et en plus ça devient un laboratoire des nouvelles guerres. Et voilà, et il y a un rapport, alors en tant que photographe, moi je connais tous ces paysages par cœur, et là j'ai plus accès aux paysages. Donc on est complètement bloqué par rapport à une réalité.
Merci.